Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre magazine Micro Rebelle Hebdo, le magazine de notre association Micro Rebelle, que vous pouvez écouter en direct sur micro-rebelle.fr et également sur l'appli que vous pouvez télécharger sur notre site et écouter également en rediffusion grâce à nos amis de Radio PFM 99.9 à Arras qui nous rediffuse le vendredi à 20h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Micro Rebelle Hebdo, c'est le magazine du bassin minier, de l'actualité sociale, des alternatives politiques, économiques, écologistes, antiracistes, féministes, et j'en passe sans aucun doute. Alors ce soir, pour ceux qui nous écoutent en direct, donc aujourd'hui dirons-nous, nous sommes quatre en studio, à la technique Luc.
Salut Lucien, salut à toutes et à tous.
Oui, je ne me suis pas présenté, moi c'est Lucien, et donc notre ami Aurélie.
Je fais mon retour, bonjour.
De retour, effectivement, elle nous en dira un peu plus tout à l'heure. Je vous avais expliqué la semaine dernière qu'Aurélie était confinée. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis une nouvelle invitée hein, que nous a d'ailleurs proposée Aurélie, c'est Gladys. Bonjour Gladys.
Bonjour à tous. Donc moi, je suis étudiante à l'UIT de Lens actuellement. Où on rencontre de grosses difficultés également avec le coronavirus.
Voilà, donc dans ce micro Rebelle Hebdo, l'agenda social et culturel, les actualités, la revue de presse, de la musique libre et des reportages. Alors, de quoi est-ce qu'on va bien parler aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité ?
On commence avec l'agenda, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité ?
Moi, dans l'actualité. Ah, bah, de quoi on pourrait parler aujourd'hui ?
Je sais pas, du Covid-19, j'imagine.
Ah, bah, je pense qu'on va être quasiment obligés. Mais on va néanmoins commencer par parler de l'actualité sociale, culturelle, ou tout au moins, selon nos informations, de ce qu'on sait, de ce qui va se présenter dans la semaine qui vient. En effet, il y a des événements, on ne sait pas à l'heure actuelle s'ils vont être ou non maintenus. Je vais commencer néanmoins par une initiative prévue le samedi 14 mars. C'est une marche entre la Porte de Douai à Lille et le CRA de l'Équin. Le CRA, ça veut dire Centre de Rétention Administrative. Alors sur la petite affichette, le petit flyer qui présente cette initiative, cette marche entre la Porte de Douai et le CRA de l'Équin, on voit deux joueurs de ping-pong. Donc un des joueurs, c'est Erdogan, le président russe. Et l'autre joueur, c'est la Grèce, autrement dit quelqu'un qui a sur sa raquette de ping-pong le drapeau grec. Et on voit Erdogan et la Grèce qui se match autour du filet de ping-pong, le filet étant composé de deux barbelés. Et la balle, par contre, la balle, bah, c'est une migrante et son enfant. Et donc Erdogan et la Grèce jouent au ping-pong à se matcher une famille migrante autour d'un filet composé de barbelés. Et donc cette marche, c'est pour la régularisation des sans-papiers, le fait de dire stop aux guerres, qui sont des contraintes pour les migrants, le fait de respecter le droit d'asile en France et dans l'Union européenne, le fait de refuser les expulsions vers les pays entre guillemets pas sûrs, l'Algérie, la Guinée, le Mali, le Sahel, la Syrie, etc., le fait d'abroger les lois xénophobes et le fait de donner des droits de vote aux immigrés. Donc cette marche prévue en principe samedi 14 mars à 14h, rendez-vous à la Porte de Douai et marche jusqu'au CRA, le centre de rétention administrative de l'Équin.
Samedi 14 mars, également nation, nationalisme, régionalisme, invention du 19e siècle. C'est donc une conférence-discussion qui aura peut-être lieu à la médiathèque du Vieux-Lille qui se trouve 25-27 place Louise de Bétigny à Lille donc. Et c'est à 15h, l'entrée est libre et gratuite. Alors, de quoi ça parle ? C'est une conférence de Sylvie April, qui est enseignante-chercheuse à l'Université de Paris-Nanterre. Le regain des expressions du nationalisme dans l'Europe actuelle, comme le dynamisme des mouvements indépendantistes issus des disparités et revendications régionales, invite à relire la manière dont ces enjeux historiques et géographiques sont nés au cours du XIXe siècle. La discussion s'articulera autour de l'analyse de quelques mythes et folklores des héros et des traditions culturelles, pour la plupart inventées pour créer des communautés imaginées. Savoir comment sont nées ces constructions identitaires qui semblent intemporelles est peut-être une voie pour les déconstruire aujourd'hui. Voilà, sous réserve.
Voilà, et donc maintenant c'est pas du tout sous réserve, parce que je comptais vous parler des actions et des marches pour le climat. Mais là ça va aller extrêmement vite parce que tout a été annulé. Ce vendredi 13 mars, la marche pour le climat de Lille a été annulée. Le samedi 14 mars, le rendez-vous était prévu à Arras, à la place de la gare. Cette marche est également annulée. Et celle de Lens est de toute façon annulée, mais cette fois-ci pour d'autres raisons que le coronavirus. Elle est annulée parce qu'il n'y a pas eu d'accord de la sous-préfecture du fait que certains membres du collectif Climat Lens-Lévin se présenter aux élections, et que donc une initiative la veille des élections est interdite aux candidates et candidats. Voilà, en tout cas, toutes les marches pour le climat sur le territoire sont annulées.
Mardi 17 mars, guitare et chorale, c'est au LAG. Ça commence à 18h30 avec un cours de guitare et à 19h avec la chorale. Alors là, ce n'est pas annulé, il me semble. Et puis, c'est peut-être bien, ces moments de confinement et d'isolement, de quarantaine, vont peut-être nous permettre de stimuler la fibre artistique qui était enfouie en nous. Voilà, on va se disposer d'un peu de temps pour faire tout ça.
On est tous un petit peu guitaristes au fin fond de nous-mêmes.
Voilà.
Alors ben, moi, j'ai pas de chance, puisque je voulais vous parler du film Mine de Rien et du festival du film ouvrier. C'était une initiative proposé par le cinéma Les Étoiles, une édition qu'ils ont intitulée Mine Rebelle, ça fait un petit peu référence à Bobine Rebelle, mais donc cette initiative, c'était la projection du film Mine de Rien au cinéma Les Étoiles de Bruy-la-Bussière, est annulée. Je signale que le cinéma est complètement fermé à compter d'aujourd'hui.
Mercredi 18 mars, Home, c'est du cirque et c'est à la Maison de l'Art et de la Communication, la MAC de Salomine. C'est dans le cadre du festival Les Utopistes Debout. Donc ce serait à 15h, à partir de 7 ans, tarif de 4 à 8 euros. On vous invite quand même à vous renseigner, vous pouvez d'ailleurs téléphoner, c'est le 03 21 67 00 67.
Le mercredi 18 mars, c'est une nouvelle manifestation, encore concernant la situation des étrangers et notamment la situation à la frontière grecque. Un rassemblement à Lille, place de la République, à 18h30, donc ce mercredi 18 mars. Rassemblement en même temps que celui du CSP 59, c'est organisé conjointement.
Mercredi 18 mars également, mais cette fois-ci dans le bassin minier à Grenay, à l'espace Ronnie Cooter. Il y aura peut-être une projection débat de The Renegade à 19h. L'entrée est libre, mais sur réservation. Et la réservation se fait au 03 21 45 69 50.
Alors, deux jours plus tard, le vendredi 20 mars, ce sont nos amis de Radio Campus qui nous invitent à une projection débat. Projection du film Radio Campus, Lille Université, toujours libre. Alors donc cette année, Radio Campus, ou plutôt l'année passée, en 2019, Radio Campus a fêté ses 50 ans, 1969-2019. Et donc l'idée, c'est d'échanger avec les animateurs, les bénévoles de Radio Campus. Ça se passe au Frénois à Tourcoing, ce vendredi 20 mars à 20h.
Vendredi 20 mars également, Zone, c'est une pièce de théâtre par la compagnie LTK Productions et en collaboration avec Culture Commune et Colère du Présent. Elle sera jouée à l'espace culturel Jean Ferrat à Avion, dans la salle Louis Aragon à 20h30. Les tarifs pleins 10 euros, réduits 5 euros. Solidaire, 3 euros.
Le lendemain, samedi 21 mars, une initiative de notre association Micro Rebelles, une initiative importante, puisqu'il s'agit de notre assemblée générale annuelle. Vous savez que Micro Rebelles, chaque mois, tient une assemblée générale à l'occasion de laquelle on discute de nos émissions, de nos thématiques, de nos perspectives. Eh bien, en mars, l'assemblée générale, ce sera l'assemblée générale statutaire annuelle, à l'occasion de laquelle on va présenter un petit peu nos comptes financiers, faire le bilan de l'activité écoulée en 2019, rapport moral, rapport d'activité, et puis avoir un petit peu une projection sur cette année 2020, quels sont les projets de notre radio, de notre association, avec qui, comment, avec quels moyens financiers et avec quelle stratégie. Donc samedi 21 mars à 10h30 à Micro Rebelle, donc à la Maison des Jeunes Buisson, rue Léon Blum à Lens, entre 10h et midi et demi, donc samedi matin. Et puis cette assemblée générale, elle sera suivie du pot de l'amitié. Alors, évidemment, cette assemblée générale, elle est a priori en particulier réservée à nos adhérentes et adhérents qui, eux, vont participer aux décisions, aux prises de vote. Mais elle est ouverte à toutes et à tous. N'hésitez donc pas.
Samedi 21 mars, également, mais le soir, il y aura un nouvel an kurde. Ça se passe au LAG, au lieu autogéré de Liévin, et c'est à partir de 18h30. À 19h, il y aura une projection suivie d'un échange avec Reboar Saïd et les membres de l'association La Pluie d'Oiseaux de Retour du Kurdistan. Il y aura également une exposition et des dessins en direct de Reboar Saïd, que vous pourrez acheter et la vente sera au profit du Rojava. Il y aura une petite restauration. Qui est Reboar Saïd ? C'est un peintre qui peint depuis son plus jeune âge. La répression contre les Kurdes le pousse à devenir peshmerga, c'est-à-dire résistant contre Saddam Hussein. Il subit des bombardements chimiques, une pluie d'oiseaux tombe. Il doit se réfugier en Iran, puis en France, où il rencontre d'autres artistes et fonde avec eux la pluie d'oiseaux. Il part ensuite en Angleterre où il reprend des études d'art. Revenu vivre au Kurdistan, il est maintenant doyen du département art de l'université de Slemani. Il est l'un des principaux porteurs du musée d'art contemporain de Slemani avec l'association kurde Balende Baran, c'est-à-dire pluie d'oiseaux en Sorani. Il a fait de nombreuses expositions dans de nombreux pays, en Europe, au Moyen-Orient et jusqu'au Japon et aux USA. Il expose à Paris, à l'Institut kurde, du 25 mars au 7 avril. Nouvel an kurde, c'est donc au LAG de Liévin, samedi 21 mars.
Une dernière annonce, comme on essaie de le redire chaque semaine, c'est juste pour que vous ayez cette date en tête. Pour l'instant, on n'a pas d'informations concernant son report ou son annulation. C'est le festival Bobine Rebelle, toujours au LAG. Et donc, c'est le vendredi soir du 3 avril et le samedi 4 avril toute la journée. Je vous rappelle que le festival Bobine Rebelle, c'est un festival documentaire, d'auteur, social et politique, avec comme particularité tout à fait intéressante la présence des réalisatrices et réalisateurs de chaque documentaire qui seront projetés. Donc il y a un documentaire qui est projeté le vendredi soir du 3 avril et quatre documentaires à partir du samedi matin jusque samedi soir, la soirée du 4 avril étant dédiée à un repas Babine Rebelle. Voilà donc cette agenda social et culturel se termine. Je vous propose quelques éléments à tirer de l'actualité. On donnera ensuite la parole à Aurélie pour sa chronique. Alors dans l'actualité, je vous le disais en introduction de ce micro-rebelle hebdo, est-il possible de démarrer autrement qu'en évoquant le coronavirus ? Depuis l'allocation d'Emmanuel Macron, les événements s'accélèrent, ainsi que la psychose autour du Covid-19. Dans ce micro-rebelle hebdo, il est à craindre que la plupart, enfin en tout cas beaucoup, parmi les événements que nous avons prévu d'annoncer dans notre agenda, soient complètement à revoir. Donc on l'a dit, c'est déjà le cas pour les marches climat, annoncées à Arras, à Lille. Le cinéma Les Étoiles de Brûlabussière est également fermé. Et donc on n'a pas à ce jour d'infos concernant les autres festivals culturels, le festival Les Utopistes Debout, Bobine Rebelle. Mais cette simple évocation suffit à toucher du doigt l'ampleur du repli sur soi que s'apprête à connaître la vie sociale en France. Dans le discours d'Emmanuel Macron, nous avons retenu ce passage, je cite « Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. » Fin de citation, c'était donc dans le discours d'Emmanuel Macron. Alors que cette affirmation soit ou non teintée d'hypocrisie n'est pas notre propos aujourd'hui. Car sur le fond, Emmanuel Macron dit juste « Le marché, la loi du marché, affaiblissent la société. » Le problème, c'est que cet affaiblissement est d'ores et déjà une réalité. C'est justement particulièrement le cas dans le domaine de la santé, où depuis des années, la casse de l'hôpital et celle de la sécurité sociale ont entraîné un délabrement de l'offre de soins et du système de santé. Cela fait des mois que les soignantes et soignants, les urgentistes, les médecins, alertent, se mobilisent, manifestent et font grève. Aujourd'hui, on a beau nous présenter notre système de santé comme étant performant et apte à endiguer le coronavirus, on sait bien qu'il n'en est rien. La politique qui est menée depuis des années, politique en matière d'économie, de restriction, d'austérité, va malheureusement causer des morts. Il n'est pas non plus indifférent de resituer la crise sanitaire actuelle dans la marche générale de notre système économique. Le discours d'Emmanuel Macron n'a esquissé aucun revirement économique réel. D'ores et déjà, se préparent des plans de renflouement des entreprises et on ne peut que craindre qu'une fois de plus, ce seront les salariés, les travailleuses et travailleurs qui paieront la note. Alors justement, dans le cadre de notre revue de presse, je suis tombé sur le site économie.org. Economie.org, c'est le site de Benoît Boritz, journaliste spécialisé dans le monde des coopératives et sur les questions sociales. Sur le site, il y avait donc un article avec ce titre « Contre le coronavirus, la cotisation sociale et le salaire socialisé » et les explications de Benoît Boritz. Face à la crise sanitaire et économique et pour garantir les salaires, Emmanuel Macron autorise les entreprises à ne pas payer les cotisations sociales en mars et renforce les indemnités de chômage partiel. C'est oublier que les cotisations sociales sont du salaire, notamment celui des personnels de santé. Un discours économiquement irréel qui ouvre la voie à de nouvelles restrictions budgétaires. Dans cet article, Benoît Boritz développe, extrait. La première chose que fait le gouvernement est de suspendre le paiement des cotisations sociales qui fournissent des moyens financiers au service public de la santé et participent au financement de l'indemnisation du chômage partiel. Toutes les entreprises qui le souhaitent, dit Emmanuel Macron, pourront reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations et impôts dus en mars. Nous travaillerons ensuite sur les mesures nécessaires ou d'annulation ou de rééchelonnement. Fin de citation. Bien sûr, continue Benoît Boritz, le discours présidentiel nous indique que l'État sera présent, mais nous ne vivons pas dans une économie magique. L'État ne peut fournir des moyens que si l'économie marchande apporte sa contribution au fonctionnement du non-marchand. Et la première chose que fait ce gouvernement est de saper ce principe essentiel. Un peu plus loin, l'article poursuit. On comprend qu'il faille éviter des faillites d'entreprises qui peuvent entraîner un effet domino de dépôt de bilan en cascade. Mais plutôt que de faire intervenir un État qui va indemniser le chômage partiel des entreprises, ne devrait-on pas organiser la solidarité entre les entreprises ? Que celles qui ont les moyens de payer parce que leur activité n'est pas ou peu affectée par cette crise contribuent envers celles qui sont en difficulté ? Comment cet État pourra-t-il relancer l'économie après avoir financé le chômage partiel et des services de santé moins couverts par des cotisations sociales, comme il l'a fait dans le passé, en redemandant de nouvelles coupes dans les budgets sociaux. On ose y croire, et c'est sans doute ce qui se prépare en filigrane. Alors une précision pour terminer ou presque cette chronique. Nous n'avons pas évoqué les élections municipales. La raison en est bien simple. Ce micro-rebelle hebdo étant rediffusé durant le week-end, notamment chez nos amis de Radio PFM, il n'est pas possible de diffuser une chronique à caractère électoral la veille et le jour de l'élection. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur microrebelle.fr et à télécharger et podcaster nos chroniques. Alors peut-être maintenant un petit écart sur l'actualité internationale pour revenir sur ce qui se passe à la frontière gréco-turque. Alors on nous a envoyé un communiqué des différentes organisations qui se trouvent dans le réseau plateforme services migrants de la région, donc des différentes organisations d'aide aux migrants, notamment dans le Nord et le Pas-de-Calais. Alors je vais vous lire ce communiqué hein, juste pour avoir une photographie de ce qui se passe à la frontière gréco-turque et comment réagissent les associations de solidarité avec les personnes migrantes ici en région. Depuis plusieurs jours, des personnes meurent à la frontière gréco-turque. Cette situation est la conséquence directe de choix politiques opérés par les dirigeants européens qui voudraient boucler les frontières de l'Union européenne à tout prix, notamment en sous-traitant à des États non européens l'examen des demandes d'asile et l'encampement des indésirables. Des images insoutenables arrivent quotidiennement, montrant des personnes exilées, refoulées ou mises délibérément en danger. Pour empêcher leur entrée en Europe, la police et l'armée grecque, rejointes par une partie de la population, ainsi que par des mouvements fascistes, ont déployé un niveau de violence inédit. En mer, comme le long de la rivière Evros, leurs agents barrent la route aux bateaux, provoquent des naufrages, tirent en l'air, blessent et tuent. Non seulement l'Union européenne ne condamne pas ces actes gravissimes, mais elle les soutient et les encourage. Au lieu de rappeler aux autorités grecques que le droit international comme le droit européen interdisent de refouler à la frontière une personne en demande de protection internationale sans en avoir examiné sa situation, le président du Conseil européen salue les efforts des Grecs pour, ouvrez les guillemets, protéger les frontières de l'Europe. Tandis que la présidente de la Commission européenne qualifie la Grèce de bouclier européen comme si l'Europe était menacée par un ennemi. De son côté, l'agence européenne Frontex va déployer une intervention rapide dans la zone, ouvrant un nouveau front de la guerre aux migrantes et aux migrants menée depuis une vingtaine d'années par l'Union européenne à ses frontières. Une coalition d'organisations contre les violences aux frontières vient de se mettre en place et annonce que des plaintes seront déposées contre la Grèce et l'Union européenne pour les violations des droits des personnes exilées fuyant la Turquie. Les États et derrière eux les décideurs européens ne doivent pas pouvoir impunément ordonner de telles exactions. Voilà pour terminer juste l'actualité sociale en France. Rappeler qu'un mouvement social appuyé sur la grève est prévu le 31 mars. Hein. C'est une date qui est présentée comme le début du deuxième round concernant la lutte et la mobilisation contre la réforme des retraites. Voilà, je vais laisser la parole à Aurélie, non pas sur la poursuite de cette revue de presse, mais sur une chronique que j'ai envie de baptiser « De retour d'Italie » peut-être, c'est ça ?
Ouais, c'est un peu ça.
Le coronavirus, vous en avez entendu parler, et je ne vais pas vous épargner ce soir, moi non plus, encore une fois. Hein. Je pense qu'on a entendu parler toute la semaine, mais bon. C'est le sujet tendance du moment, et ayant été au cœur même du sujet, comme l'a dit Lucien, j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Donc, selon de nombreux médias, la prise en charge des personnes revenant d'Italie, ou plus généralement des pays touchés par le virus, est plutôt bonne, voire efficace. Mais est-ce que c'est vraiment efficace de laisser des personnes en quarantaine chez elles, alors que, admettons-le, la plupart du temps, les personnes ne respectent pas cette quarantaine. Donc pour ma part, je reviens d'Italie du Nord et je suis partie le 21 février, soit juste avant en fait, l'annonce du premier cas de coronavirus en Vénétie, donc à Venise. Donc mon retour en France a été semé d'embûches et de « je ne sais pas » ou encore « il faut attendre plus d'informations », comme si la France n'était pas concernée par le sujet. La prise en charge inexistante me fend encore le cœur. 10 minutes avant l'arrivée à Lille, petit détour pour aller chercher des masques, de peinture. La consigne, ne parlez pas aux médias, dites que vous êtes bien pris en charge. Oups, désolé. Mais quelle prise en charge au juste ? Un ou deux appels furtifs de l'association en charge du voyage pour s'assurer que non, nous ne sommes pas malades, que nous prenons bien notre température. Et c'est un sacré coup de bol que parmi les 75 personnes du voyage, personne ne soit malade parce qu'il y aurait pu en fait avoir quelqu'un touché par le virus. Et puis peut-être que ça aussi, on ne le saura jamais au final parce que dans cette histoire, tout est un peu flou finalement. Les gens paniquent, ils achètent du papier toilette en masse et des pâtes. Le personnel médical vole les masques et les gels hydroalcooliques parce qu'après tout, chacun pour soi, c'est bien connu. On se croirait dans The Walking Dead, hein, clairement. Les industries de gels hydroalcooliques et des masques se frottent les mains. Hein, ils n'ont jamais autant gagné d'argent que ce dernier mois. Et c'est ahurissant de constater que certaines personnes se sentent plus en sécurité s'ils se tiennent très loin des Asiatiques. Hein, j'ai pu avoir le tour dans le métro avec leur petit gel hydroalcoolique en guise d'arme fatale, hein, on ne sait jamais, et leur écharpe comme masque de protection. Et plus personne ne tient la barre du métro. C'est assez étonnant parce qu'on adopte tous subtilement, ou pas subtilement justement, la position du surfeur pour ne pas toucher les barres. Et si une personne ose tousser, un périmètre de sécurité se forme autour d'elle, ce qui n'est pas facile dans le métro, qu'on se le dise, même si, rappelons-le, le coronavirus n'est pas le seul virus présent. Hein. Certains ont peut-être simplement une angine, mais principe de précaution, hein, les gens ont peur. Donc mettez-vous à ma place, de retour de Venise, je suis devenue un rat de laboratoire. A-t-elle le coronavirus ? Elle revient de Venise, en Italie du Nord, comme si j'avais fait le Koh-Lanta de l'extrême. Hein. Ne cédez pas à la panique. Hein. Pour rappel, je pense que les médias l'ont assez répété, mais peut-être pas assez du coup. La grippe saisonnière tue plus de monde chaque année et personne n'en parle. Et au final, pendant cette grippe saisonnière, personne ne se protège avec des masques et des gels hydroalcooliques. Et je pense qu'on arrive tous à s'en sortir à tous les hivers, donc pourquoi pas là ?
Oui, merci Aurélie. Alors justement, puisque tu es venu aujourd'hui avec Gladys, Luc et moi, on a passé la journée à Micro-Rebelle, hein, donc on n'a pas tellement de visibilité sur ce qui s'est passé à l'extérieur depuis ces annonces d'Emmanuel Macron et puis ces annulations en série. Est-ce que vous avez peut-être quelques éléments à nous communiquer, hein, vous avez passé la journée ensemble à l'extérieur, sur qu'est-ce qui se passe exactement en ville, dans les magasins, comment est-ce que vous avez vécu ça ? Gladys.
Moi, pour commencer, à l'université, c'est un peu la panique. Il y a beaucoup de personnes qui viennent pas. Les profs sont pas capables de nous répondre. Ils savent pas quoi mettre en place pour les cours. Par exemple, moi, j'ai mon dernier semestre qui va bientôt se terminer puisque j'ai 2 mois de stage et j'ai plus qu'un mois de cours. Donc, ils savent pas comment ils vont rattraper tous les partiels parce que je suis en contrôle continu. Donc, c'est vraiment la panique. On n'a aucune réponse. On est totalement dans le flou. Après, à l'extérieur, les gens se dévisagent dès qu'il y a quelqu'un qui tousse, c'est « m'approche pas » ou certaines personnes font l'air de rien, ils s'en moquent totalement, ils se font la bise, c'est paradoxal. D'un côté, il y a les gens qui s'en foutent totalement et de l'autre côté, les gens qui sont « oulala, m'approche pas, attention !» Enfin, je trouve que c'est un peu abusé d'en faire vraiment une polémique. C'est déjà arrivé, on s'en est déjà sorti. Pourquoi on n'y arriverait pas cette fois ? Et je trouve ça dommage de tout fermer parce que finalement, le pays s'ennuie, tout est mort, vraiment. C'est... je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve ça vraiment ennuyant de rester en quarantaine chez soi et de rien faire.
Et puis avec Gladys, on a pu aller à Carrefour Liévin, hein, petite info. Donc on a pu voir que j'avais vu des vidéos sur Facebook et des images de Carrefour Liévin, il me semble, où les rayons de pâtes et de riz étaient dévalisés. Alors j'y croyais pas trop, mais quand je suis arrivée et que j'ai vu des gens avec des packs de cristalline x12, voire x15, et avec des gens qui avaient des rouleaux de papier toilette vraiment à perte de vue. Et là, quand j'ai vu le rayon de pâtes, je me suis dit que Barilla, Panzani et compagnie, ils allaient se faire un max de thunes. J'ai l'impression que les gens ne mangent que des pâtes, parce qu'il n'y avait que des pâtes dans leur caddie. Donc,
clairement, est-ce que les pâtes italiennes sont en quarantaine ?
Ah ben ça je ne sais pas, hein, mais les gens ils adorent les pâtes. Alors Carrefour a dû se faire un max de thunes parce que on a pu voir des cartons de pâtes marque repère Carrefour à perte de vue. Alors je crois que eux ils ont fait des stocks, ils ont prévu déjà d'avance que les gens ils allaient kiffer leurs pâtes. Et en plus ils les avons mis en tête de gondole, en mode prenez nos pâtes, elles sont très bonnes, voilà. Et même on a pu voir plusieurs rayons qui étaient dévalisés. Bon après les gens ils achètent, je pense qu'ils achètent un peu n'importe quoi parce que quand on voit il y avait quand même pas mal, la plupart des rayons n'étaient pas dévalisés, il y avait juste les pâtes. Il me semble qu'il y avait aussi le pain, tout ce qui est pain de mie aussi, genre ça il n'y avait plus rien. Les biscottes, hein, mais les gens, mais par contre les céréales il n'y a rien eu, j'ai pas compris. Les packs de lait, et donc voilà, et donc on a des gens qui cèdent un peu à la panique.
Te moque pas Aurélie, on en reparlera quand tu commenceras à avoir faim.
Ah mais mon père il fait des réserves toute l'année.
Ah bon, ça donc, va, toi t'es bien lotie.
Voilà, exactement. J'étais prête en fait déjà avant. Ça c'est parce que j'ai trop regardé The Walking Dead. Voilà.
J'avais envie de te poser une question, Gladys. Tu parlais des informations qui circulaient à la fac. Mais par exemple, dans les médias, on parle des cours à distance.
Oui, effectivement, dans les médias, on en parle. Sauf que les universités, ils ont été prévenus un peu à la dernière minute. Il leur faut du temps pour pouvoir se rabattre et prendre des décisions. En sachant que nous, on ne fonctionne pas beaucoup par cours en ligne. Donc ça va être hyper compliqué pour nous de s'adapter à ça. En plus, il y a d'autres difficultés comme les stages. Il y a des entreprises qui ont décidé de casser les contrats à cause de tout ce qui se passe. Ils ont des peurs de choper quelque chose ou autre. Mais on n'a rien. Enfin, si on va en cours, c'est qu'il y a une raison.
Ouais, donc effectivement, c'est vous qui risquez de trinquer quoi, dans cette affaire.
Je pense qu'indirectement, tout le monde trinque, mais qu'il y a certaines personnes à qui... toute cette polémique que profitent finalement ceux qui produisent le gel, ceux qui vendent les pâtes, finalement. Eux, c'est du business qu'ils se font.
Très bien, on essaiera justement régulièrement d'avoir ce type de petit échange sur la réalité de comment tout ça s'est vécu dans le concret. Et puis de comparer avec ce qui est dit officiellement, je pense que ce n'est pas inintéressant d'avoir ce type de recul. Petite pause musicale.
Petite pause musicale avec un groupe, un trio féminin plutôt régionalisant. Ils viennent du sud-ouest c'est de la musique en occitan. Alors on m'excusera pour la prononciation du titre, Soukamine de Sainte-Jacques. Et le groupe s'appelle Cocagna.
Se domande nabuwa, se domande nabuwa, nous le zin serbirum dun, din nous le zin serbirum dun, dun se nes domande loja, se nes domande loja, nous le zin balerum dun, din nous le zin balerum dun, dun.
Thank you. web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo, magazine d'actualité sociale et culturelle dans le bassin minier. Et au-delà, c'est diffusé sur notre site internet microrebelle.fr, mais également chez nos amis de la Franf, les Arageois de Radio PFM. Pour la suite de cette émission, pour la deuxième partie, on propose maintenant un reportage sur la mobilisation qu'il y avait dans les universités avant qu'elles ne ferment. C'est-à-dire que cette mobilisation avait commencé avec la réforme des retraites notamment, mais elle s'est concentrée finalement ces dernières semaines avec la réforme et les difficiles conditions de travail qui concernent l'enseignement supérieur. C'est un reportage réalisé par Elsa.
Je n'arrive plus à me projeter au-delà de 2 jours. Comment je vais assumer mes partiels, ce que je vais manger ce soir ou demain? Comment rentrer chez mes parents sans essence? Non seulement je ne m'en sors pas, mais je m'en veux de ne pas réussir. Je vais non seulement échouer, mais décevoir mes parents. Chaque mois, je suis à découvert depuis 3 ans. Jusqu'où ça va aller encore? Comment je vais tenir jusqu'au master? Et c'est des témoignages qu'on a dû récolter, aussi bien pour faire les productions que vous avez devant les yeux comme pour organiser cette journée. On se retrouve à recueillir des paroles qui sont systématiques, systémiques, quotidiennes, et rendu normal, banal.
Vous écoutez Micro Rebelle, web radio d'actualité locale et sociale. Ce jeudi 5 mars 2020, on s'est rendu à l'Université de Lille, campus Pont-de-Bois, à l'occasion du mouvement de grève lancé par la coordination des facs et labos en lutte, sous le mot d'ordre « L'université et la recherche s'arrêtent ». Cette mobilisation se tient en réaction à un ensemble de lois et de réformes, celles sur les retraites, celles de programmation pluriannuelle de recherche concernant l'enseignement supérieur, celles sur l'assurance chômage et de manière générale sur la précarité étudiante, comme on a pu en entendre des témoignages. Rencontre avec Sébastien Charbonnier, enseignant-chercheur à l'Université de Lille.
Donc je suis enseignant-chercheur titulaire, je le précise, ça va être important pour la suite, à l'Université de Lille en philosophie et en sciences de l'éducation. Ici, on est sur le campus Pont-de-Bois parce que l'Université de Lille, c'est 7 sites différents. Donc là, c'est celui de Villeneuve-d'Ascq, l'ancienne Université de Lille 3, lettres et sciences humaines. Et on est jeudi 5 mars 2020, journée de mobilisation nationale des facs et labos en lutte.
Alors pourquoi journée de lutte aujourd'hui ?
Parce que dans la suite du mouvement contre la réforme des retraites, a pu se cristalliser spécifiquement pour l'enseignement supérieur une deuxième lutte contre la LPPR, donc un acronyme qui signifie loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Donc c'est une loi qui va décider du fonctionnement de l'université et de la recherche pendant les 5 prochaines années. Disons que la LPPR, c'est pas simplement quelque chose qui va empirer quelque chose qui irait très bien, c'est quelque chose qui va empirer au sens de poursuivre une dégradation de l'université. Donc, à l'occasion de cette lutte-là, on découvre déjà tout ce qui va mal en termes de précarité des étudiants qui n'ont pas assez d'argent pour manger, qui sont mal logés, qui n'arrivent pas à suivre leurs études parce qu'ils doivent travailler en même temps. Et puis aussi une grosse précarité du côté des travailleurs de l'université, d'abord les étudiants eux-mêmes, parce que l'université emploie les étudiants, les paye très mal, les paye parfois avec 6 mois de retard. Et puis beaucoup de jeunes enseignants, donc des gens qui sont en train de passer leur doctorat ou qui, ça y est, sont docteurs mais ne trouvent pas de poste. Donc voilà, il y a une précarité précarité générale. Et en fait, la LPPR vient, on va dire, accentuer cette précarité parce que tous les points de cette future loi vont encore rendre les conditions d'embauche pires, les conditions de travail encore pires. L'université est devenue autonome. Donc il faut décoder ce que veut dire autonome dans le langage des gouvernants. C'est finalement une autonomie économique, mais un peu comme un parent qui dirait « je te donne 20 euros en argent de poche et tu fais ce que tu veux avec ». Sauf que il y a plein d'évolutions, il y a plus d'étudiants, la masse salariale, comme des fonctionnaires en tout cas, augmente en coût mécaniquement avec l'avancement de carrière. Toutes ces choses-là sont des choses vis-à-vis desquelles l'État se désengage progressivement. Et donc ça asphyxie complètement les universités d'un point de vue économique, ce qui fait qu'on se retrouve avec des cours sans salle, avec des TD surchargés, et avec un désir de l'université de recruter de plus en plus des contractuels, et surtout pas des titulaires. Donc ça verrouille complètement l'avenir de l'enseignement supérieur à la recherche, et notamment pour tous les jeunes étudiants qui se projetaient en disant « j'ai envie de faire de la recherche, j'ai envie de travailler là ». Ils sont de plus en plus inquiets, ils se disent « mais en fait, c'est juste pas possible, si je continue mes études, il n'y aura aucun débouché ». Donc c'est vraiment aussi, à moyen terme, c'est dramatique pour la recherche en France.
J'aime ma retraite, le savez-vous comment ?
Cette loi LPPR, elle a été proposée par trois groupes de travail composés de personnes qui ont été désignées par le gouvernement. Dans ces propositions, il y a l'idée que le gouvernement fournirait plus d'argent à l'ANR, l'Agence nationale de recherche, en disant qu'il y a plus de budget du coup, pour la recherche. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ?
Eux, ils ont une idéologie, ils ont un point de vue. Et en fait, quel est leur point de vue ? Parce que du point de vue des gouvernants, ils font des bonnes choses. Mais nous, on n'est pas du tout d'accord avec ce point de vue. Mais c'est important de présenter leur point de vue. En gros, ils considèrent que des conditions de travail pérennes et sécures, typiquement le statut de fonctionnaire, ça ramollit, ça fait des gens pas efficaces, ça fait des gens qui se reposent sur leur laurier. Donc, ils pensent, c'est une vision de l'être humain, c'est une vision anthropologique, que la compétition, la peur, le risque de ne pas pouvoir continuer à travailler demain, c'est des bons moteurs. C'est des moteurs à vouloir donner le meilleur de soi-même. Et en fait, c'est ça leur modèle. Et c'est ça qu'ils veulent généraliser. Et donc, effectivement, l'ANR, c'est un pilier de ce modèle-là, puisqu'en fait, l'ANR dit, vous aurez des moyens pour faire votre travail si vous déposez un projet qui est retenu en compétition avec tous les chercheurs en France. Donc le taux, aujourd'hui, on le connaît, hein, à l'ANR, c'est un dossier sur six qui gagne. Donc ça veut dire 5 dossiers sur 6 qui sont refusés. Donc 0 euros pour 5 dossiers sur 6. Donc non seulement c'est 0 euros, mais en plus c'est toutes les heures consacrées à déposer des dossiers très lourds. On parle de dossiers qui font plus de 100 pages, hein, qui font des centaines de pages, qui sont très techniques. Des choses d'ailleurs que les enseignants ne savent pas forcément faire. On est obligé de recruter spécifiquement des gens pour aider à constituer ces dossiers. Donc le peu d'argent qu'il y a pour les nouveaux postes, c'est des postes de techniciens spécialisés dans la construction de dossiers pour gagner des sous. Donc voilà un peu des conditions de travail qui siphonnent en fait les énergies, et même on pourrait dire l'argent public, en juste tant de compétition pour essayer d'avoir des euros, et il y a un dossier sur six qui est retenu. À partir du moment où on voit dans quelle mesure l'État est au service de ceux qui ont déjà beaucoup, les riches, Marx dirait un État bourgeois, les leviers étatiques ne sont pas uniquement, de moins en moins, des leviers de redistribution de type État-providence, etc. Au contraire, c'est une captation de l'argent public pour donner encore plus à ceux qui ont plus. Donc c'est quasiment l'équivalent de niche fiscale, c'est-à-dire que le supérieur devient une niche fiscale parmi tous les produits qui sont proposés aux citoyens les plus riches qui payent de l'impôt, et c'est ce qu'on appelle le crédit impôt recherche. Donc c'est des manières pour les entreprises d'investir de l'argent dans la recherche, mais comme cet argent-là, il est globalement défiscalisé, indirectement, c'est l'État qui paye. Sauf que la grosse différence, c'est qu'avant, l'État payait de manière inconditionnelle ses chercheurs titulaires qui étaient libres d'aller dans la direction qui leur paraissait la bonne, parce que c'est leur métier, c'est des professionnels. Maintenant, c'est comme si l'argent transitant par les entreprises, on déléguait aux entreprises l'orientation de la recherche publique française. Une des revendications classiques des enseignants-chercheurs, c'est de dire arrêtez ce système indirect qui coûte très cher alors même que si on allouait cet argent-là, donc l'équivalent du crédit impôt recherche, on pourrait recruter énormément d'enseignants-chercheurs titulaires, on pourrait donner aux étudiants français des universités publiques de bien meilleures conditions d'études. Notamment avec Parcoursup qui vient se rajouter à ça, c'est-à-dire un esprit de sélection. Ça aussi, c'est un des effets de la paupérisation des universités. C'est que historiquement, au fur et à mesure qu'il y avait de plus en plus d'étudiants, l'État donnait les moyens, puisqu'il n'y avait pas le choix, c'était un enseignement public et gratuit. Et là, l'État décide de se désengager. Donc s'il y a plus d'étudiants, la solution, c'est on sélectionne et on n'accueille pas tout le monde. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur à la recherche, on a quelque chose qui vraiment se tricote progressivement depuis le processus de Bologne d'uniformisation européenne. On sait aussi que leur objectif, parce qu'on a les textes de travail de ces technocrates, c'est de rendre les études payantes. Il y a un rapport de Thierry Coulon qui avait fuité pendant les Macron Leaks au moment de la campagne. Donc Thierry Coulon qui aujourd'hui est le conseiller scientifique pour l'enseignement supérieur et la recherche à l'Élysée auprès de Macron. Et il avait transféré un document. Et dans le document, il y a des choses très crues, puisque là, il n'y a aucune langue de bois, c'est un document interne, où ça dit par exemple « La hausse des frais d'inscription, voilà le nerf de la guerre ». Où il faut rendre tous les parents de France comme de petits actionnaires qui vont investir dans l'avenir de leur enfant. On voit l'image qu'ils ont. Ils savent que les étudiants ne sont pas solvables, mais leur objectif, là aussi, c'est dit très clairement, on a un marché, un public captif pour les banques. C'est-à-dire qu'on va acculer tous les étudiants de France à faire un prêt étudiant. Et on voit tout ça qui cherche à se mettre en place. Donc la LPPR, qui peut paraître technique, actuellement, et ne concernait que les enseignants, impacte en fait indirectement et même très directement les étudiants, puisqu'on voit très bien que c'est à chaque fois une petite marche franchie vers cet objectif-là. De même que l'année dernière, le programme Bienvenue en France, nom très cynique, donné à la loi qui rendait payante les études pour les étudiants non européens, 2700 euros en licence et 3700 euros en master, était une sorte de ballot d'essai pour voir quel était le niveau de résistance. Parce qu'on sait que c'est la chose dont ils ont le plus peur, la résistance des étudiants. Et s'ils voient que des choses comme ça passent, ils vont sentir qu'ils ont le feu vert, ils ont la fenêtre pour pouvoir passer à des frais d'inscription de l'ordre de 1000 euros. C'est le chiffre qui circule dans leur document, avec vraiment cette idée qu'on commence par 1000 euros pour pas... Mais après, si jamais ça passe, les augmentations pourront se succéder. C'est ce qui s'est passé en Angleterre. Il y a eu 3 réformes successives, mais une fois que la première avait eu lieu, les 2 autres sont passées très facilement. Et aujourd'hui, un étudiant en Angleterre termine ses études avec 60 000 euros de dette.
On a entendu tout à l'heure des champs de lutte d'étudiants, étudiantes et de professeurs et de personnel, j'imagine, de l'université, tous et tout ensemble. Est-ce que tu peux un peu me parler de ces mobilisations qui ça concerne quelle est l'idée qu'est-ce qui se dégage de ces moments collectifs de réflexion?
Dans les moments de rencontre avec les personnes qui sont là, c'est très riche. C'est vraiment l'occasion d'échanger entre étudiants, de lever la honte, par exemple. On retrouve vraiment la même logique que pour les gilets jaunes, c'est-à-dire que la honte change de camp. C'est-à-dire de cesser d'avoir intériorisé que avoir le petit boulot, pas finir ses fins de mois, c'est la honte, parce que visiblement, je sais pas, on serait nul, on n'arriverait pas à s'en sortir dans la vie. Mais au contraire, se rendre compte que c'est d'abord la conséquence d'une logique très, très agressive du capital et de l'État qui refuse absolument la moindre aide aux jeunes générations et cherche délibérément à les paupériser. Et donc, de pouvoir organiser des espaces où on débat, où on dialogue, où on parle de la précarité, ça fait beaucoup de bien. Et ça fait aussi du bien entre étudiants et personnel. Parce que les étudiants, ça casse aussi une certaine image qu'ils peuvent avoir des enseignants, parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ils ne peuvent pas deviner d'élite de faciès qui est titulaire et qui est précaire. Et souvent, ils ne soupçonnent pas qu'il puisse y avoir des situations chez les enseignants qui sont assez dramatiques. Et du côté des enseignants, ça permet aussi des fois de mesurer la précarité des étudiants qu'on soupçonne pas. Enfin, des fois, on est vraiment très étonné de voir le niveau de galère, le fait d'avoir 50 euros par mois pour manger, la terreur que ça peut être d'avoir dépensé 3 euros pour une bière sans vouloir pendant 2 jours en disant ça me coûte 2 repas que je vais devoir sauter dans mon budget. Donc c'est très riche. Le mouvement de mobilisation de ce point de vue-là est joyeux. Hein, comme dirait Simone Veil, la grève c'est une joie pure aussi parce que c'est l'expérience du collectif. En même temps, on peut pas masquer le fait qu'on est encore trop peu nombreux. Ils sont encore beaucoup plus nombreux à passer dans les couloirs comme si de rien n'était, allant d'un cours à l'autre et à demeurer visiblement assez indifférents à une actualité politique et à des lois qui les concernent pourtant directement. La loi de réforme contre les retraites, je comprends que pour eux ça paraisse loin, mais le fait est qu'elle concerne d'abord les nouvelles générations. Donc on essaye, un des enjeux de la mobilisation, comme son nom l'indique, c'est de mobiliser, c'est-à-dire d'aller vers les étudiants qui ne sont pas intéressés, d'aller vers les collègues aussi, hein, parce qu'on est nombreux comme collègues à impliquer à l'Université de Lille, mais comme on est la plus grosse université de France, relativement au nombre de personnels de l'Université de Lille, là aussi on est encore trop peu nombreux. Je me trompe peut-être, mais il ne me semble pas que la mobilisation, que le frein à la mobilisation pour les enseignants-chercheurs titulaires soit d'abord financière. Elle est plus dans un certain imaginaire, dans une certaine obéissance à une idée du métier, hein, ce qu'on peut comprendre. Ils n'envisagent pas d'abandonner leurs étudiants, certains. Voilà, ils le voient comme ça, d'ailleurs. On pourrait se poser la question, est-ce qu'on les abandonne quand on se met en lutte, ils n'envisagent pas d'arrêter leur travail de recherche ou leur travail administratif à côté. Ça, c'est des discussions qu'on a beaucoup entre collègues. Est-ce qu'une grève, ça doit être une grève totale de toutes les tâches qui sont multiples d'un enseignant-chercheur? Est-ce qu'on peut arrêter juste la recherche? Il y a beaucoup, par exemple, de revues qui sont en lutte.
On est là ! On est là !
Tout à l'heure, il y a eu des prises de parole de pompiers, cheminots, agents hospitaliers. Tu penses quoi de cette convergence aujourd'hui? Est-ce qu'elle te semble importante?
Elle est précieuse. Et en tout cas, nous, à l'Université de Lille, on a beaucoup été dans ce sens-là. On a été plusieurs fois aux AG des cheminots en décembre et en janvier. Eux-mêmes sont venus dans des amphis parler, témoigner avec des étudiants. Et dans nos AG aussi, ça a fait beaucoup de bien. Il y a eu une AG début janvier qui a été assez décisive de ce point de vue-là quand ils sont arrivés à 40 environ. Ça donnait de l'élan, ça donnait du sens. C'était intéressant d'échanger les vécus et les analyses. Et c'était, on va dire, un des rares effets heureux de l'attaque du régime des retraites. C'est-à-dire que, comme c'était une attaque généralisée de tous les travailleurs de France, la mobilisation, j'allais dire, ne pouvait être que interprofessionnelle. Donc c'est très important. Il y a sans doute aussi un effet post-gilet jaune qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est-à-dire qu'il y a une conscience, on pourrait dire, du peuple et des travailleurs de plus en plus forte que les attaques sont systémiques et concernent tous les travailleurs et travailleuses, quelles que soient les corporations, publiques comme privées aussi. Il y a eu une convergence publique-privée au moment de la réforme des retraites.
Reportage d'Elsa sur la réforme dans l'enseignement supérieur, mais aussi, vous l'aurez compris, sur les conditions d'études, les conditions d'enseignement, les conditions de recherche dans les universités. Ça a été enregistré à l'Université de Lille. On va terminer ce micro-rebelle hebdo en musique et on revient avec ce groupe féminin du pays gascon, Cocana. Et celle-là, c'est pour Aurélie, ça s'appelle Cotelon.
Moro,
Retrouvez-nous la semaine prochaine. Micro Rebelle Hebdo, c'est tous les vendredis en direct à 19h sur microrebelle.fr et c'est rediffusé sur à 18h, merci, et c'est rediffusé sur Radio PFM pendant la soirée et le week-end.
Muro, cu, le, 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 cu, le